Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Si vous avez raté la première heure, pas de panique, cet après-midi, tranquillement vous vous installez et vous écoutez ces révélations sur le clash des présidents de Ligue 1. C'était cette semaine, évidemment, on en a parlé ce matin dans les grandes gueules du sport. Avec Christophe Cessieux, Simon Dutin, Marc Madio et notre nouvelle GG Fred Le Canu, le judoka. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, J-1 avant Italie-France, troisième match du tournoi des 6 nations pour nos bleus. En Italie, les choix forts de Fabien Galthié jouent-ils gros sur cette fin de tournoi? Ce sera notre bras de fer. 10h30, le retour de Melvin Jaminet après 26 semaines de suspension à la suite de propos racistes. Peut-il redevenir un joueur de rugby normal? Ce sera la punchline donc à 10h30. Et puis 10h45, les GG contre-attaque. Vous connaissez le principe. On le rappelle pour Fred, évidemment, notre nouveau venu. Vous proposez un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous avez 20 secondes pour le teaser. C'est maintenant à vous d'être bon. Et ensuite, l'heureux élu viendra développer sa problématique. À 10h45, Christophe, tu proposes quoi aujourd'hui?
Je veux vous parler du peloton. Le peloton qui agit un peu comme un mouton. Vous savez, les moutons qui arrivent en haut de la falaise et qui se jettent les uns après les autres. Eh bien, j'ai l'impression que le peloton international se comporte comme un troupeau de moutons. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est passé des drôles de trucs au Tour d'Algarve cette semaine.
Exactement. C'était une image assez choc de cette semaine lors de ce Tour d'Algarve et j'imagine que ça va intéresser Marc Madio. Bah justement Marc, tu nous proposes quoi?
Moi j'avais envie de vous parler du Tour de France qui va se rapprocher à grands pas.
C'est bien ça.
Et quand on regarde un petit peu l'état des lieux en termes de participation et des équipes, on s'aperçoit qu'il va y avoir un choix extrêmement difficile à effectuer potentiellement pour les organisateurs et je milite donc pour une 23e équipe au départ du Tour pour être certain que toutes les bonnes équipes françaises soient au départ du Tour, comme elles doivent l'être toutes au départ du Giro pour les équipes italiennes et comme elles doivent l'être toutes au Tour d'Espagne pour les équipes espagnoles.
L'intérêt supérieur du cyclisme français, la casquette de militant de Marc Madio, c'est un
peu il faut les Français au départ du Tour.
Ok, Simon Dutin.
La saison de Formule 1 va bientôt reprendre. On est tous excités. Il y a eu le transfert le plus excitant dans l'histoire du sport depuis Messi à Paris ou Dutin à RMC, je sais pas. Mais Lewis Hamilton chez Ferrari. Il y a beaucoup de débats sur qui est le GOAT, le plus grand pilote de l'histoire. Donc, est-ce que Lewis Hamilton a besoin de devenir champion du monde avec Ferrari pour être définitivement classé comme le meilleur pilote de tous les temps?
Je sens que la F1, ça va intéresser.
Ouais, non, je voulais juste faire remarquer au passage la grande classe d'Hamilton en arrivant en Italie, qui prononce déjà quelques mots en italien, et sa tenue vestimentaire.
C'est drôle de le voir en rouge, ça fait des super.
Le costume, okay. La grande classe.
Si vous votez Simon Dutin, et on pourra en reparler comme ça. Fred Le Canu.
Oui, un sujet autour de la dualité entre l'individu et le collectif. Clarisse Segbenienou a exprimé en judo qu'elle ne voulait pas faire les championnats du monde et elle est prête à solliciter un tribunal pour ça, un tribunal du sport, ce qui est assez incroyable parce que d'habitude on sollicite le tribunal pour faire les championnats du monde. C'est donc une première et c'est deux schémas de vision, celui de l'athlète, celui du collectif et des entraîneurs. Et donc le sujet forcément que vous allez choisir, puisque c'est le plus intéressant, c'est celui donc de savoir qui doit être le chef de projet. Est-ce que c'est le coach ou est-ce que c'est l'athlète?
Ouais, ça m'intéresse pas dire vraiment la grippe.
Mais non, mais il y a plein de bons sujets que tu peux en faire des débats. Tu peux en faire des vrais débats.
Très bien, merci beaucoup.
Elle pouvait pas nous parler de Wembanyama, Dubon et de Mbappé, quoi. Tu veux jouer
Elle pouvait
tu
pas dire
un truc
avait
un
la
peu
grippe.
Différent.
Oui. Elle pouvait pas dire qu'elle avait la grippe. Elle est restée à la maison.
Bah visiblement non. On sait pas.
Ah, bon. Les championnats du monde c'est cet été, donc ça fait une grosse grippe quand même.
Ah ouais, d'accord.
Votez les copains et puis on en parle à 10h45 pour votre débat préféré. Allons, on débute cette deuxième heure avec ce proverbe allemand qui dit: celui qui a le choix a aussi le tourment.
RMC. Le bras de fer GG.
Ouais, ils s'en mêlent les passants, les Anglais. Attention, le ballon, il n'y a pas d'avance sur l'extérieur, ça peut faire essai.
Essai
c'est Lorenz.
Le rugby, c'est pas la Star Academy, c'est pas Koh-Lanta non plus.
Allez, Ramos, qui perce, sur l'extérieur, il y a du monde. Dupont, en avant.
Parfois, on a le droit d'être un peu moins performant collectivement. On a le droit aussi d'être un peu moins fort individuellement.
Il va y avoir duel, bien biarré. Ouh, l'Anglais, c'est l'Anglais, quel ballon. Essai
les Anglais.
Nous sommes très légers, nous sommes très heureux de jouer à ce jeu.
On repart encore à droite et on fait faute de main encore une fois.
Ballon tombé, va à l'avant.
Nous sommes toujours dans cette période de résilience avec le respect du parcours. On est convaincu que vivre l'expérience qu'on vit en ce moment va nous rendre plus forts.
Avec le pilier Baxter, c'est et c'est les Anglais.
C'est un peu la théorie de Darwin, pour survivre, c'est pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, c'est celles qui s'adaptent.
On va avoir perdu, de l'Angleterre.
Nous on est tellement heureux de jouer, il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir et de s'aimer très fort.
Aimons-nous très fort. Comme disaient les inconnus, embrassez-vous, bordel de merde. La mise à l'écart de Damien Penaud et Mathieu Jalibert. Un banc déroutant avec 7 avant et 1 3 quarts. Une première dans l'histoire du 15 de France. Fabien Galthié a fait des choix très forts donc pour affronter l'Italie demain après la défaite en Angleterre. Vous l'avez entendu il y a 15 jours. Des paris qui doivent s'avérer payants pour espérer encore remporter ce tournoi des 6 nations. Fabien Galthié joue-t-il gros sur cette fin de tournoi, sur cette deuxième partie de tournoi? Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Christophe Cessieux. Et c'est tout. Dans le coin droit, la team non, représentée par Marc Madiot, Fred Le Canut, Simon Dutin. Christophe, tu te sens peut-être un peu seul ce matin, mais pas du tout. On vous a posé cette question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. 69% pensent comme toi. Oui, il joue gros sur cette fin de tournoi. Avant de débattre, on va retrouver en direct d'Italie la voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Templier.
Salut Wilfried. Alors Wilfried, on ne change pas une équipe qui gagne, paraît-il, mais on change une équipe qui perd donc.
Oui, Fabien Galthié a tranché dans le vif, on va dire. Exit Mathieu Jalibert, une nouvelle fois écarté après avoir été remis en 10. Mais il faut croire, et Fabien Galthié l'avait avoué à demi-mot, qu'il ne devait sa place en Angleterre qu'à l'absence d'un arrière du type Léo Barré, qui lui, justement, va retrouver sa place demain à l'arrière. Ramos est à nouveau en 10, mais plus surprenant encore, tu l'as dit, l'éviction de Damien Penaud, l'homme aux 37 essais en bleu, à un essai d'égaler le record de Serge Blanco, mais pas assez bon dans le jeu sans ballon à Twickenham. En défense notamment, on ne peut pas donner tort au sélectionneur. Un choix que Galthié explique et surtout qu'il a clairement exposé à l'ailier de l'UBB.
Avec Damien, j'ai passé 2 heures avec lui mardi en fin de journée, à échanger, à l'écouter, à partager. Il faut absolument qu'on soit en phase, même si je conçois que c'est jamais évident pour un compétiteur d'accepter, de digérer la décision. Mais nous l'assumons totalement, la clarté quoi, la clarté dans la discussion. C'est ce qui s'est passé, Damien pourrait rajouter qu'on se connaît tellement bien depuis 6 ans, qu'on a construit un lien de confiance réciproque qui est important.
Un lien de confiance, mais des cadres qui sont depuis des mois remis en question. Ça a été Ficou, puis Aldrit ou Olivon en novembre. Penaud maintenant, alors que Fabien Galthié nous disait il y a un an, et on l'a entendu tout à l'heure, que le 15 de France, ce n'était pas Koh-Lanta quand on parlait du manque de concurrence pour ces hommes inamovibles. Là, le sélectionneur a changé de stratégie et il l'avoue, à l'opposé de tout ce qu'il affirmait avant pour choyer ses tauliers, voici un vrai virage dans son mandat. Résumé, écoutez-le, en 47 secondes.
C'est vrai, c'est la première vision sur le premier mandat, il était très clair que c'était monter une équipe, à développer l'expérience collective, monter une équipe en compétences, monter une structure, une organisation, monter un savoir-faire, développer la confiance collective, développer le projet autour de nombre de joueurs qui semblaient être en capacité d'aller à la Coupe du Monde en France. Sur ce second mandat, c'est, l'idée est toujours la même, mais on doit être en capacité de traverser les remises en question, l'émulation, la concurrence et développer le potentiel. Ça veut dire quoi le potentiel? C'est les joueurs qui performent et qui méritent de porter le maillot, tout en conservant une grande confiance pour ceux qui l'ont fait sur le premier mandat, les joueurs que vous avez déjà cités, qui font partie intégrante du projet, qui sont pour nous des joueurs très importants, quoi qu'il arrive.
Il est clair avec tout le monde, et puis après tout c'est le très haut niveau, la concurrence exacerbée, mais, car il y a un mais, on ne peut occulter que depuis le quart de finale de Coupe du Monde perdu face au boxe, on entend que l'ambiance est un peu moins joviale à Marcoussis, que ça saute tant parfois entre lui et son groupe, et donc ce choix de sanctionner certains le place encore plus dans l'obligation de réussir, car malgré l'infini progrès du rugby français sous sa coupe, si à l'inverse ça ne marche pas, si ça ne gagne pas, Fabien Galthié sera doublement en position délicate, certainement avec l'opinion publique, mais aussi avec une partie de ses joueurs.
Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Le match c'est demain, hein, ça se passe à 16h, ce troisième match du tournoi des nations entre l'Italie et la France. Fabien Galthié joue-t-il gros sur cette fin de tournoi? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Christophe, t'es tranquille, tu as l'opinion publique avec toi, le camp du non, c'est à vous de jouer. Simon Dutin, pourquoi non?
Pourquoi non? Mais enfin, je sais pas dans quel monde on vit. Je pense que les gens ont la mémoire courte, ou alors il y a beaucoup de gens qui sont des rugbyks et qui s'intéressent à ce sport depuis quelques mois à peine. C'est quand même avoir la mémoire courte.
Bah, il a gagné quoi? Il a gagné quoi?
D'accord, il a gagné quoi? Et avant lui, qu'est-ce qu'on avait gagné? Explique-moi. Enfin, moi, je considère que c'est certainement le meilleur sélectionneur de l'histoire contemporaine du 15 de France. Au nombre de victoires absolues, il est deuxième derrière Bernard Laporte.
Très bien, mais ça c'est pas voilà. Des titres.
Non, mais
ça,
d'accord, mais il faut participer au débat. Alors, c'est sûr, dis-le nous à l'avance. Mais on perd contre l'Afrique du Sud, futur champion du monde en quart, et on perd contre les Anglais d'un point à Twickenham, et Galtier dehors. Mais c'est dans quel monde on vit? Qui parle? Qui pense connaître le rugby en nous expliquant qu'il faut virer Fabien Galtier? La série de victoires, le record de c'est combien, 14 Wilfried, série oui. De victoires consécutives, ça n'avait jamais été fait. La démonstration contre les All Blacks, 40-25, tu sais, avec l'essai French Flair, il a ressuscité le French Flair tout en, il l'a dit, construisant une ossature, appris à des mecs à regarder toutes les nations dans les yeux, il a fait de la France quasiment la meilleure nation du monde, le Grand Chelem en 2022.
Depuis 10 ans au Pays de Galles et depuis 10 ans en Irlande, et on l'a fait, c'est bon.
D'accord, mais voilà, merci Wilfried. Le Grand Chelem en 2022, ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas fait le Grand Chelem. La raclée à Twickenham, 53-10, alors qu'on chaque année on se faisait humilier. Moi, quand j'étais petit, c'était la routine. Le dimanche, on se demandait combien on allait en prendre et même pas si on avait une chance de les battre. Les Anglais, on perd d'un point à Twickenham. Et si tu connais un peu le rugby, mais les Anglais, ils sont meilleurs que nous. C'est une plus grande nation du rugby que nous. Point barre. On perd d'un point et on est là. Non, mais c'est scandaleux, machin. Donc Galtier, pour moi, il est intouchable et on ferait une énorme connerie si on switchait Galtier. Maintenant que t'as dit ça,
on passe la balle après.
Ok, je trouve que, et moi, à titre personnel, sa communication m'agace, ce mysticisme, le chemin qu'on emploie avec les garçons, machin. Je trouve que là, il est dans la contradiction. J'ai l'impression qu'il est un peu en train de chercher son kung-fu là, parce que il a créé de l'expérience, il a voulu souder les mecs et créer un sentiment d'équipe et un vécu collectif. Pour tout foutre en l'air, Damien Penaud, il t'explique que le mec, il est à un essai du record des séances avec le 15 de France, et on t'explique que ouais, il a fait un mauvais match, avec un mauvais match on apprend des défaites, nous dit Galtier. Mais bon, Penaud, il va aller apprendre tout seul à la maison et tout. Là, j'ai quand même un petit peu plus de mal à comprendre.
On touche un bordelais, donc là ça l'est quand même.
Et on n'a pas parlé de Jalibert encore.
Donc là, Galtier, même s'il l'adore, même s'il le vénère, même s'il prie devant son portrait tous les matins, là, quand même, quand on touche à un bordelais, là, ça l'énerve.
Marc Madio, toi, t'es dans le camp du non aussi, mais j'ai l'impression que t'étais pas d'accord avec Simon.
Tout simplement parce que, en écoutant les propos de Galtier, j'avais l'impression d'écouter l'homélie du révérend père Galtier, qui
ça.
Nous
non, mais dans la prod, c'était terrible. Les
remettait en place son équipe, qui distribue avec le bon mot, la bonne parole. Le bon point à tel joueur, la petite remontrance à telle attitude, et j'avais l'impression d'entendre une homélie. Et je pense qu'au fond de lui-même, Galtier est persuadé qu'il est intouchable et qu'il ne sera pas en danger. Alors, pour combien de temps encore, c'est l'avenir qui nous le dira, c'est les résultats qui donneront le verdict. Mais pour l'heure, pour répondre à ta question, il est absolument pas en danger. Et de toute façon, combien même il serait en danger, on met qui?
Mais bonne question.
Est-ce qu'il joue gros sur cette fin de tournoi avec ses choix forts? C'est pas de dire est-ce qu'il va partir s'il perd contre l'Italie. C'est pas ça le débat.
C'est un peu ça que tu nous dis quand même. Il joue gros. Si tu joues gros, c'est que t'es en danger.
À un moment donné, c'est aussi la crédibilité du sélectionneur qui veut gagner des titres et qui n'en gagne pas.
Aujourd'hui.
Donc la question se pose.
On va pas faire un drame.
Quoi?
Il joue l'Italie. S'il ne bat pas l'Italie, excuse-moi quand même.
Ah bah on est bien d'accord.
Trois fois dans l'histoire contre l'Italie.
Donc pour les autres
nations, il n'y a pas de scénario catastrophe. Tu es en train de nous vendre un produit sais qu'il est déjà vendu et bien vendu.
Rappelle-toi que l'année dernière, on passe à Lille, de perdre, hein. On est passé ric sur le ballon. On aurait dû perdre ce match et on l'a gagné de manière miraculeuse. Alors, vous voulez connaître ma position? composition, parce que là, c'est bien, là, Saint-Galtier, on prie pour toi, tout va bien, t'es le plus beau, t'es le plus fort, on t'aime, et surtout, on touche pas à tes points. Je pense pas. Alors, pour dire, est-ce qu'il joue gros, je ne pense pas qu'il sera viré, même s'il perd les trois prochains matchs. Ça, c'est une tendance, malheureusement, dans toutes les fédérations. On ne vire pas un sélectionneur, ou très rarement un sélectionneur, pendant son mandat. Il y a eu juste Guy Noves, mais bon, à l'époque, c'était Bernard Laporte qui était le président, et on sait que les deux hommes se détestent cordialement. Donc voilà, ça a été un cas particulier. Mais tous les autres sélectionneurs sont restés en place jusqu'à la fin de leur mandat, et je pense que Galtier va être de même. En revanche, le totem d'immunité dont il bénéficie depuis qu'il est arrivé aux affaires de l'équipe de France est en train de se fissurer petit à petit. Il y a d'abord eu cette défaite en quart de finale face à l'Afrique du Sud, le tournoi l'année dernière, notamment le début du tournoi qui a été vraiment très compliqué. Il y a eu ces affaires l'été dernier. Maintenant, on pensait que tout allait bien parce qu'on avait gagné trois matchs en novembre, qu'on avait battu, écrasé le Pays de Galles, et puis paf, on est tombé sur l'os anglais. Et du coup, tout est en train de remonter à la surface. Et Galtier, on l'entend, et je regardais les réactions des gens, des uns et des autres, quand on entendait les extraits tout à l'heure dans la prod. C'est vrai que son discours, moi, j'en peux plus de ce discours-là. Je n'en peux plus de ce côté gourou du rugby. Mystique, je vous explique mystique, le truc ouais. et tout, mystique. Il est fatigant. Arrête de parler et fais-les gagner, quoi. Fais-les gagner, et notamment, alors c'est demain face à l'Italie, mais surtout, montre quelque chose face à l'Irlande.
C'était quand même un peu un jour de café, là. Il a perdu un match, et ça y est, t'es déjà un peu en train
de... Il a perdu un match, mais Marc, il n'arrête pas de perdre les matchs importants. Il gagne les matchs dont on n'a rien à faire, qui n'ont aucune importance. C'est bien de battre le Japon. Alors, c'est bien d'avoir battu la Nouvelle-Zélande. Mais la Nouvelle-Zélande, tu les bats dans les matchs qui servent à rien. Si tu les joues en quart de finale, en demi-finale, en finale, là, tu les perdras. Face à l'Afrique du Sud, on était la meilleure équipe du monde. On était chez nous. Et on perd aussi d'un point. Contre l'Angleterre, on devait les écraser parce qu'ils sont très mauvais. On perd d'un point. L'année dernière, on se fait écraser par l'Irlande. Il y a deux ans, on se fait écraser par l'Irlande. Les matchs importants, on ne les gagne pas.
L'Afrique du Sud, ils sont double champion du monde, et on perd parce que le ballon de rugby, t'es au courant, il est pas rond. Oui, il rebondit deux fois dans le mauvais sens.
Je suis quand même extrêmement
surpris par votre esprit critique sur son point fort, quand même. Moi, je le trouve génial, ce mec. Justement, cette capacité d'avoir ces principes qu'il a. Alors, ok, il y a un petit côté.
C'est quoi ces principes? Il vient de changer de principe.
Regarde, c'est le principe d'adaptation, c'est ce qu'il a dit.
Ah ouais, ouais.
Et regarde, un mec comme Penaud, là, mine de rien, il faut le sortir. Alors, tu vas me dire, ouais, il change, mais c'est ce qui fait aussi sa caractéristique, c'est qu'il est surprenant parce qu'il est en capacité de surprendre. Et moi, je suis sur un point, c'est tant que tu diras pas, on va être jugé sur un résultat sec, ça bougera pas. C'est-à-dire, quand on me pose la question, est-ce qu'il va être jugé sur la fin du truc, mais il est pas jugé, en fait, puisque les matchs qu'il a déjà perdus n'ont rien changé. Et je pense que Céline n'est pas jugé parce que aujourd'hui, il y a personne d'autre que lui qui est capable de gérer cette structure-là. S'il y avait de la concurrence aujourd'hui, s'il y avait une vraie concurrence, une stratégie.
En termes de joueurs, en termes de sélectionneurs,
de projet de sélectionneur.
Un mec comme Hugo Mola, je pense, ferait très très bien l'affaire.
Peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas assez de connaissances pour le dire, mais peut-être que son projet, il est pas assez vu ou compris. Parce qu'aujourd'hui, ce qui donne l'impression de l'extérieur, c'est que peu importe ce qui se passe, on a l'impression que Galtier, justement, il tire la boutique, que ce soit d'un point de vue sportif ou des espaces extérieurs, parce qu'il a quand même été secoué par des choses qui sont quand même pas faciles à gérer, en tant que sélectionneur, j'entends, et aujourd'hui, la boutique, elle tient. Alors, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas ultra performante.
En l'occurrence, c'est le président de la Fédé qui la tient dans les affaires de l'été dernier. Galtier, on l'a pas du tout vu, il s'est mis en retrait complètement.
C'est le président qui a demandé de se mettre en retrait, qui
a essayé de régler comme il pouvait les choses. Galtier s'est mis vachement en retrait sur toutes les
histoires. Oui, mais justement, c'est aussi une qualité. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on tire dessus et on tire sur quelqu'un qui adapte son discours permanent.
On tire dessus pour les résultats, Fred, pas pour les affaires. Je pense qu'il a bien fait de se mettre en retrait sur les affaires de cet été, parce que une partie du staff n'a peut-être pas fait son boulot en Argentine. Maintenant, on juge Galtier pas là-dessus, on juge Galtier sur ce qu'il fait gagner à l'équipe de France. Et pour l'instant, même s'il a gagné des grands matchs, il a une génération extraordinaire. Une génération extraordinaire qui, peut-être dans les mains d'un autre sélectionneur, serait déjà championne du monde, aurait gagné.
En tout cas, son talent, c'est de t'expliquer à chaque fois de manière raisonnée et raisonnable, à chaque fois, de te l'expliquer pourquoi la limite allait arriver. C'est pour ça qu'il tient, c'est que ce qu'il dit est intelligible.
On va écouter Hervé au 32-16 qui nous appelle. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On t'écoute.
J'ai quatre points à évoquer, je vais essayer de faire vite. Moi, je pense que hors année Coupe du Monde, il faut arrêter le cercle des 42, des protégés qui jouent jamais en top 14, des réservistes dans les tribunes. Au foot, par exemple, vous avez un groupe de 23 et c'est tout. Le système fausse le championnat commence sérieusement à agacer les joueurs. Jalibert, Penaud. On a des exemples des jeunes, Gaëtan, Lebel, qui font des allers-retours sans jamais jouer. Et donc, pour moi, Fabien Galthié se sert comme des pions. Pendant le tournoi, pour moi, le seul gagnant, c'est la SNCF. C'est une petite blague, mise à part. Pour moi, Fabien Galthié, il s'est perdu. La Coupe du Monde, elle n'a pas été digérée. On en parlait, il y avait Patrick Sébastien au mois de Katocho. Je pense qu'elle n'a toujours pas été digérée. On ne bâtit rien. On a des U20 qui ont été champions du monde. Compos demain, il n'y en a aucun. Qui joue un, deux, même pas. Pas d'identité de jeu. On a le Stade Toulousain, on a l'UBB, ça joue. Là, on revient sur un 7-1 incompréhensible. Moi, je pense qu'il tend, ce monsieur, à s'enfermer dans ses certitudes, ou plutôt ses incertitudes. Les supporters comme moi sont en colère. Et le désamour est en train de s'installer. Moi, j'ai des copains qui ont revendu leur place pour aller en Irlande. D'accord? Et on comprend pas pourquoi des clubs comme le Stade Toulousain, La Rochelle, gagnent en Europe et qu'on n'est pas capable, nous, de gagner en équipe de France. Et enfin, je tiens mon chapeau à Christophe Cissieux, parce que c'est le seul dans les médias qui a été capable de remettre en question depuis 3 week-ends Fabien Galthié, parce que ce soit sur France Télévisions, sur l'équipe, sur Ubi Rabat, et même Vincent Moscato, un peu mou du genou cette semaine, continue à lui trouver des excuses. Moi, je fais le bilan soit de France-Irlande, parce que si en Irlande, on en prend 35, là, par contre, il va falloir s'adapter et se remettre en question. Et enfin, si vous me permettez, j'ai une dédicace aux 32 215 spectateurs à guichet fermé, dont je fais partie à Chaban dimanche soir, qui seront contents de voir les joueurs sur le terrain et pas dans les tribunes.
Ok, supporter de l'UBB, donc avec Damien Penaud et Mathieu
Jalibert sera là ce week-end ou non? Hervé, il sera aligné du coup?
On le saura aujourd'hui s'il ne fait pas trop froid, mais comme on a prévu 20 degrés à Bordeaux demain, je pense qu'avec la motte, ils seront alignés.
Merci beaucoup Hervé, franchement c'était très clair, c'était très bien de t'avoir dans cette émission.
Parce que Wilfried, il a été relâché de l'équipe de France, parce que j'ai lu qu'il était grippé, donc il est rentré en France alors.
Il est rentré mercredi. Mercredi matin, il était déjà rentré.
Ouais. Donc, il n'est pas du tout réserviste en fait sur le match.
Non.
Merci. Je pense qu'il
partait jeudi et donc il était peut-être encore malade, alors que là, il peut rentrer à Bordeaux et guérir et peut-être jouer demain. Ouais.
On te retrouve demain, Wilfried, à partir de 9h dans les grandes gueules du sport. Le match, c'est demain entre l'Italie et la France à partir de 16h. Hervé, c'était excellent, c'était impeccable. En plus, si tu fais des louanges à Christophe Cessieux, alors là, il est ravi. Christophe, il était parti à 69%. Oui, il joue gros. Nous sommes désormais à 70%.
Est-ce que j'ai retourné Wilfried? C'est le plus important. Est-ce que j'ai retourné Wilfried?
Non, mais sûr. Bon, on a peut-être plus le temps, Jean-Christophe. Non,
on en parle demain de la gestion des cadres, si vous voulez bien. 70%, 30%, c'est la fin de la consultation victoire donc de Christophe Cessieux. On se retrouve dans quelques instants pour parler de rugby, mais des affaires cette fois. Et le grand retour aujourd'hui de Melvin Jaminet. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Le chemin qu'on emploie avec les garçons.
Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, donc Marc Madiot, Fred Le Canu, Christophe Cessieux. À partir de 11h, on ouvre le débat autour de Victor Wembanyama qui est forfait jusqu'à la fin de la saison régulière. Est-ce que sa blessure gâche sa saison? On se posera la question. Restez bien avec nous. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire dans cette émission jusqu'à midi. Après 26 semaines de suspension, Melvin Jaminet va faire son grand retour sur un terrain de rugby aujourd'hui à l'occasion de la 17e journée de top 14 entre le RCT, son club, et le Stade français. Son dernier match date du 6 juillet dernier avec le 15 de France contre l'Argentine. Le soir même, l'arrière du RCT dérape, il profère des propos racistes et publie cette vidéo par erreur sur les réseaux sociaux. La suite, on la connaît, la sanction, les excuses. Et donc son retour aujourd'hui. Son coach Pierre Mignoni était hier en conférence de presse. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Il a assumé, il a pris sa part de responsabilité. Donc une fois qu'on a accepté tout ça et bien géré ça entre nous, on a été à son soutien mental, il fallait surtout être proche de lui. Et en même temps, il assume les sanctions qui étaient décrites et il l'a fait. Et il continue à le faire et il continuera de le faire. Ce n'est pas parce qu'une sanction s'arrête que tout s'arrête. Il va continuer à faire plein de choses qu'il a fait en dehors du rugby ou à travers le rugby. Il a payé sa dette, il faut lui laisser l'opportunité d'être ce qu'il doit être un joueur de rugby.
Il doit être un joueur de rugby. Melvin Jaminet, peut-il redevenir un joueur de rugby normal, oui ou non? Christophe Cessieux.
Je pense, oui.
Marc Madiot.
Oui.
Simon Dutin.
Oui.
Fred Le Canu.
Eh oui.
Ok, tout le monde est d'accord sur le oui. Il y a peut-être des nuances avant de débattre. On va retrouver notre correspondant dans le sud de la France, Julien Landry. Salut Julien.
Salut JC, salut à tous.
Alors comment ce retour est vu dans le groupe?
231 jours que Melvin Jaminet n'a plus joué au rugby. Plus de 7 mois loin du terrain, le bout du tunnel pour l'arrière qui a pendant ce laps de temps réalisé des actions de prévention concernant les dangers liés à l'alcool et aux réseaux sociaux. Ses coéquipiers, notamment Baptiste Serin, sont heureux de le retrouver.
Il a été sanctionné juste au titre de ce qui est arrivé. Je pense que le club l'a bien accompagné aussi dans toutes ses démarches. Il a pu faire son mea culpa pendant plusieurs semaines. Maintenant, il est retour à la compétition. Nous, c'est ce qui nous importe. Il sera avec le même maillot que nous ce week-end. L'importance de la chose pour nous de l'accompagner déjà. Essayer de lui enlever ce stress parce que forcément il y en a, après tout ce qu'il a vécu, forcément il y a un peu d'appréhension, un peu de stress.
Une reprise à Mayol cet après-midi où l'accueil des supporters devrait être chaleureux.
Très bonne chose, il va apporter son expérience.
C'est super, je suis très content qu'il rentre parce qu'il nous manque beaucoup.
C'est une très bonne chose parce que c'est un garçon que j'apprécie énormément.
Pierre Mignoni, le manager, espère dorénavant que cette histoire est derrière Jaminet, qui, on vous le rappelle, a été suspendu 26 semaines après avoir tenu des propos racistes dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Il a assumé ce qu'il avait assumé, il a pris ses parts de responsabilité. On a été à son soutien mental, ça c'est la première des choses. Je l'avais dit, il fallait surtout être proche de lui, ça c'est la première chose. Et puis maintenant, il a payé sa dette, il faut lui laisser l'opportunité d'être ce qu'il doit être un jour de rugby.
Jaminet devrait disputer un peu plus de 20 minutes cet après-midi pour tirer un trait définitif sur cette histoire et redevenir simplement un joueur de rugby.
Et c'est justement l'objet de notre débat. Merci beaucoup Julien Landry d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il peut redevenir un joueur de rugby ? Il n'y a pas forcément de débat, donc on va faire vite les copains. Pourquoi il peut redevenir un joueur de rugby normal ?
Parce que déjà que Jégou et Oradou le sont redevenus c'est-à-dire eux ils ont été innocentés par la justice, mais quelque part le sentiment d'impunité dont ils ont bénéficié n'a pas bénéficié à Jaminet, parce que ces trucs il les a enregistrés et donc il a été puni pour ça, mais
les propos sont avérés. Moi je trouve qu'il y a une différence,
les propos sont ouais
mais... c'est-à-dire ça tombe quasiment intégralement sous le coup de la loi, les propos de Jaminet, alors que Jégou Oradou, que le tribunal de la rue, la moralité condamne les pratiques auxquelles ils se sont adonnés, je veux bien, mais la justice les a innocentés.
Lui n'a pas été innocenté, mais il a payé.
Oui, il a payé.
Je veux dire, il a pas non plus, il a assassiné personne, il a payé, il a 34 semaines de suspension, viré de l'équipe de France, a priori, viré ad vitam aeternam, c'est ce qu'a dit Florian Grill, qui veut plus le voir en équipe de France. Donc, je pense qu'il a quand même payé pour sa faute, grave faute, je reconnais, Simon. Voilà, maintenant, je pense qu'il va redevenir un joueur de rugby normal, parce que, rappelez-vous de Bastien Chalureau, juste avant la Coupe du Monde, impliqué dans une bagarre à connotation raciste. Alors, la justice, là aussi, n'a pas reconnu la notion de racisme dans ce truc-là. Il a pris 6 mois de prison avec sursis. On se souvient, ça avait fait un énorme buzz juste avant le début de la Coupe du Monde, avec notamment les partis politiques qui s'était emparé du sujet et qui avait dénoncé Bastien Chalureau. Bon, finalement, il a joué 2-3 petits bouts de match et puis aujourd'hui, il est redevenu un joueur de rugby comme les autres. Je pense que Jaminet va faire de même. Il va revenir sur les terrains. Rappelez-vous, Jégou Oradou, quand ils sont revenus dans leur club, ils ont été acclamés. Ils ont
en tout cas soutenus.
Acclamés. Quand ils sont revenus au club, ils ont été acclamés dans leur stade. En équipe de France, il y a eu quelques sifflets, mais c'est vite passé. Donc voilà, Jaminet. Et je pense même que Jaminet, s'il parvient à retrouver son niveau qui était le sien avant cette affaire, pourra à nouveau prétendre à l'équipe de France, parce que on le sait, quand on a besoin d'un joueur, on efface tout et on recommence.
On va juste réécouter, avant de vous écouter les copains, Florian Grill qui était avec nous sur RMC dans les grandes gueules du sport. On lui parlait de Melvin Jaminet. Mais est-ce qu'il pourra rejouer en bleu? C'est aussi la question. Melvin Jaminet.
Écoutez, moi, on m'a posé la question. J'ai dit, ça sera très compliqué. Parce que vis-à-vis des partenaires de l'équipe de France qui ont associé leur marque à l'image du rugby, ils portaient quand même le coq quand il a tenu ses propos. Quand on porte le coq, quand on représente la France, je suis désolé, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. De mon point de vue, ça sera très compliqué. Si c'est, vous me demandez mon avis à moi,
voilà, c'était en octobre dernier dans les grandes gueules du sport. Fred Le Canu.
Si j'étais un peu provoque, je dirais qu'il n'a jamais cessé d'être un joueur normal. Parce que finalement, si on arrive à se décorréler des propos qui sont inadmissibles, condamnables et condamnés, en fait, quand tu regardes les trois piliers, c'est quoi ? C'est la quête de performance, ils l'ont tous, d'être les meilleurs. Et puis après, t'as la lutte contre les accès aux réseaux sociaux notamment, et la lutte contre les excès. Et en fait, quelque part, ce qu'il y a en deuxième rideau, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a une, comme la taupe tout à l'heure dont on a parlé, il y a une intrusion dans un truc peut-être qu'il voulait pas dire. Est-ce qu'on est dans un truc qu'il lui était conscient de faire? Il a partagé. Donc c'est une erreur terrible qui lui coûte extrêmement cher parce que les propos sont tout à fait condamnables, comme tu disais tout à l'heure. Et dans un état qui semble être pas un état naturel. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce qu'aujourd'hui, on est en représentation permanente. Quand t'es athlète de haut niveau, tu es en représentation permanente et tu dois être en contrôle permanent. La vie aujourd'hui, comparée à ce qu'il y a eu par le passé, fait que aujourd'hui, tu es systématiquement en capacité de te faire rattraper par un œil extérieur qui peut être prolongé vers le grand public. Tu dois être en permanence en capacité de contrôler tes propos, contrôler ton attitude, contrôler tout ce que tu incarnes. Et on a parlé du coq, on a parlé... Voilà, donc aujourd'hui, être professionnel, c'est la notion d'être irréprochable. Et ça, c'est le combat de n'importe quel joueur de rugby, mais j'ai envie de dire de n'importe quel sportif de haut niveau normal. C'est la compréhension, la capacité de voir que tu ne peux plus faire d'erreur, tu ne dois plus faire d'erreur, et que ça fait partie de ton métier. C'est comme ça aujourd'hui. Le terrain, en fait, il s'arrête plus à la tribune, il va tout le temps, partout, et tu peux pas baisser la garde. C'est terminé, c'est pas possible.
Simon Dutin.
Il va redevenir un joueur de rugby, il va redevenir un joueur de rugby raciste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais
je veux dire, mais dans l'imagerie, l'inconscient collectif, voilà, c'est un mec raciste qui. Mais c'est le racisme ordinaire, en fait. On tombe de l'échelle parce que là, je te rejoins, Fred, il y a un effet de loupe sur les sportifs qui se mettent en scène désormais. On a de plus en plus de mal à avoir des interviews parce que les sportifs font eux-mêmes leurs propres interviews, sauf que c'est eux qui choisissent les thèmes et les questions sur leurs réseaux sociaux. Ce qui est fou, c'est de se demander comment à 25 ans, quand tu te mets une caisse comme il s'est mise en Argentine, tu t'allumes ton téléphone en disant les conneries qu'il a pu balancer. C'est ça qui est complètement déglingué dans cette histoire. Mais regarde Mohamed Awas, qui était ancien international, condamné pour violence conjugale, et ben il est revenu. Il est d'abord parti à Biarritz qui lui a tendu la main, et il est revenu dans son club d'origine et il continue de jouer au rugby. Et bon.
Et pourtant les images.
Et ça ne dérange personne. Exactement, j'allais dire les vidéos. Chalureau, c'était catastrophique aussi parce que c'est encore une fois c'était avéré. Et Chalureau, il a dû t'es dans la sauce, tu moulines, t'espères que soit tes performances, mais surtout le temps qui passe va estomper le truc. Voilà, moi j'ai envie de croire que quand tu t'expliques face à Mignoni, les frangins Rebadge et Bastaros, qui a été le cas de Jaminé pour justement être réintégré à Toulon. Bon, si un collège constitué de mecs comme ça et de ce qu'on croit connaître de ces mecs-là te dit écoute, voilà, exactement, t'as payé et tu rejoues, il a droit à la chance. Mais cette histoire, pour ceux qui chercheront à s'en souvenir, elle disparaîtra pas. Ce sera toujours le mec qui espère croiser un arabe pour lui mettre un coup de casque. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire ?
Marc Madio. Ouais,
c'est indélébile.
Bon, je pense qu'à partir du moment où il y a eu sanction, que la sanction a été effectuée, il a le droit de redevenir joueur de rugby. La justice ne se passe pas dans la rue, elle se passe dans un tribunal. Il y a eu jugement, il y a eu sanction. Sanction effectuée, il a le droit de réintégrer son ancien métier. Après, je sais qu'il y a eu des débats aussi sur les mêmes sujets avec le chanteur du groupe Noir Désir.
Bertrand Cantat,
personne n'est obligé d'acheter les disques de Bertrand Cantat. Moi, j'achetais pas avant, j'achète pas maintenant, j'achèterai pas demain parce que c'est pas mon style de musique. Mais une fois qu'on a purgé sa peine, combien même les actions ont été dramatiques.
Cantat, son métier, c'est pas d'incarner l'excellence aussi. Et c'est ça le problème des athlètes de haut niveau, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de faux pas. Le côté de rock'n'roll, il est plus facile peut-être à porter que le côté équipe
de France. Pas forcément, la sanction de l'arbitre est la même.
Je ne parle pas du contenu, je parle du contenu bien évidemment. Je parle juste dans la répercussion sur l'image et l'attitude. C'est pour ça que les athlètes de haut niveau, ce côté parfait.
Les rockstars ont toujours eu le droit de se doper et de prendre de la drogue, alors que les athlètes de haut niveau, évidemment.
Par exemple, excellent. Juste très rapidement, est-ce qu'il peut revenir en équipe de France? Est-ce que ça, c'est une éventualité ou non?
Je pense qu'il faut laisser passer l'eau sous les ponts, mais que s'il n'y a personne qui s'affirme, que si Ramos s'affirme en 10 vraiment et qu'il nous manque un arrière de qualité, Jaminé a un coup de pied de mammouth, il est capable de traverser le terrain avec son pied, il faut qu'il retrouve ses qualités, retrouve son niveau, mais pourquoi pas.
Ok, il ne faut jamais dire jamais, c'est ce que tu veux nous dire, même si pour Simon, non, tu n'y crois pas.
Moi, je pense que ce serait une bêtise. Je pense qu'au titre de ce qu'on appelle l'exemplarité, je pense que ce serait une erreur. Mais, et donc, à ce titre-là, je pense qu'il ne reviendra pas.
10h46, on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Il y a un gagnant parmi vous, mais quel débat a gagné? Il y avait quatre très bons débats. Il y en a un qui s'est
imposé. J'ai pas gagné demain, si j'ai pas gagné aujourd'hui, je le remets demain.
Oui, mais c'est ce que tu nous dis chaque semaine. Donc, ne t'inquiète pas, on refera du tour de la garde demain, si tu veux. Ça marche. Ça marche au Fight Briator pour toi, mon cher Marc. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, toujours avec Simon Dutin, Marc Madiot, Christophe Cessieux, Fred Le Canu. À partir de 11h, on ouvre le dossier Victor Wembanyama. Fred Weiss sera avec nous. Sa blessure gâche-t-elle sa saison? Vous n'êtes pas d'accord? Les GG, on vous donnera évidemment les tenants, les aboutissants et les conséquences forcément de cette blessure. Sachez que l'équipe de France de basket s'est qualifiée pour l'Euro. C'était hier en Croatie. On en reparlera demain parce que, eh bien, il y a eu des actes racistes à l'encontre de notre équipe de France dans les tribunes en Croatie. On en reparlera évidemment. En tout cas, l'information, c'est que ces Bleus sont qualifiés pour l'Euro. On ne sait pas encore si Victor Wembanyama pourra y participer. Allez, tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin par les GG. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport à la dernière place. Ah, c'est le nouveau venu, forcément, il faut apprendre. Même si j'adorais ce débat, Clarisse Agbenienou.
C'est le meilleur débat, c'est dommage. C'est dommage, on n'est pas compris du grand public quand on est talentueux.
17% pour toi, mon cher Fred, tu repasseras la prochaine fois.
C'est dommage, j'aurais bien aimé.
Mais ça veut dire que je suis déjà invité, t'entends la prochaine fois?
Non, mais j'aurais bien aimé entendre quelqu'un du monde du judo s'exprimer là-dessus. Moi, ça m'aurait vraiment intéressé.
Il fallait voter pour moi, monsieur.
C'était un bon débat, ça.
Ouais. 21% pour le chaos sur le tour de l'Algarve pour toi, Christophe.
21%, je suis à 23%.
21%.
Non, je suis à 23%, là.
24%.
Non,
Marc, je refuse. On sent que t'as perdu. 24% pour les 23 équipes sur le Tour de France et favoriser nos équipes françaises. Deuxième place pour toi, mon cher Marc Madiot, la victoire.
Flavio, alors.
Voilà, reprends tout ça. La victoire pour
et le drapeau
Simon
à damier, bien sûr.
Lewis Hamilton, peut-il devenir le GOAT? Va-t-il s'imposer chez Ferrari? On t'écoute.
Bah, c'est une question que je me pose. Moi, j'aime bien, je connais peu la Formule 1, mais j'aime bien justement lorsque un pilote de cette dimension, il n'y en a pas eu tant que ça, signe chez Ferrari. C'est toujours un événement. On se souvient de Schumacher qui était arrivé justement dans cette écurie mythique et qui avait réussi à faire gagner Ferrari qui avait toujours ce prestige à l'époque mais qui gagnait plus rien. Bon, c'est le transfert le plus excitant de ces 15-20 dernières années en Formule 1. Lewis Hamilton, c'est 7 titres de champion du monde. On se demande s'il est le meilleur pilote de tous les temps. Il y a toujours des gens pour te dire ouais, mais il avait la meilleure bagnole, tu sais, c'est un argument qui revient souvent. Il avait la meilleure voiture, OK, il est très doué. Bon, voilà. Est-ce que si d'aventure, parce qu'on a vu que Leclerc et Sainz, même avec les améliorations de la voiture l'an dernier, n'était pas en mesure d'inquiéter Verstappen. Si d'aventure Lewis Hamilton remportait le titre de champion du monde des pilotes avec Ferrari,
tu crois vraiment
je manque d'expertise pour savoir si la voiture est assez développée ou pas. Il y aura un changement de règlement qui va rebattre les cartes. Si d'aventure dans les 2-3 années qui viennent il devait remporter le titre des pilotes, avant la fin de sa carrière, grosso modo, est-ce que si Lewis Hamilton devient champion du monde des pilotes avec Ferrari, la mythique Scuderia, est-ce que on pourra dire qu'il est incontestablement le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1? Voilà.
Ok, bah vous pouvez répondre. Je sens que ça intéresse Marc Madiot. Marc.
Ouais, il y a un beau suspense en jeu avec l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari. Maintenant, je suis quand même un peu inquiet pour lui dans la mesure où chez Mercedes face à Russell, il avait quand même des difficultés pour être le number one. Russell n'a pas été encore champion du monde jusqu'à maintenant, mais il a quand même souvent fait des meilleurs temps, notamment aux essais par rapport à Hamilton. C'est un vrai challenge qui se passe. C'est un kit ou double un petit peu pour Hamilton. Il arrive chez Ferrari. En face de lui, il y a un pilote qui n'a pas été champion du monde non plus, mais qui est quand même très opérationnel, Leclerc. C'est un très bon. Donc, si la voiture est bonne, on va avoir du grand spectacle. Après, il a l'expérience pour lui. Il aura peut-être plus tout à fait la même pointe de vitesse, mais il aura quand même l'expérience pour lui pour faire le match avec Verstappen si la Ferrari est opérationnelle. Et je pense qu'elle va être opérationnelle.
Moi, je pense que Leclerc va prendre le dessus sur Hamilton, de par sa connaissance de la voiture, de par sa fougue, sa jeunesse, il n'a pas encore tout gagné, il rêve de gagner, et il rêve de se mesurer à Hamilton et de battre le GOAT.
Pour tout pilote, quel qu'il soit, un passage chez Ferrari, c'est quand même le sommet d'une carrière. Tout pilote de F1 qui n'a pas été chez Ferrari n'a pas fait le parcours complet. Et je pense que pour Hamilton, il y a le côté mythe
Mais est-ce que ça suffit, ça?
Ça suffit, c'est pas sûr. Mais au moins.
Non, mais est-ce que ça suffit d'avoir assouvi ce rêve? C'est-à-dire, où est-ce qu'on attend autre chose maintenant? Non,
mais il est évident pour Hamilton que c'est un quitte ou double. S'il réussit à être performant, et ce d'entrée de jeu, parce que je pense que dès les premiers Grands Prix, il va y avoir une tournure de prise. Et s'il est opérationnel et très compétitif dans la lutte pour le titre, ça restera dans l'histoire. Mais bon. Sinon, il va vite être en difficulté.
C'est énorme d'avoir pris ce risque-là quand même.
C'est
l'objectif.
C'est pour ça que je pose la question.
Ouais, mais je pense que c'est un gars magnifique. Qui a besoin de challenge.
Moi, je pense que c'est ça qui est magnifique.
Il se fait plaisir aussi.
Oui, mais c'est aussi ce qui permet de passer dans une autre dimension, tu vois, de s'associer à Ferrari qui est mythique. Parce que c'est là où tu vraiment. Parce que l'adaptation, elle va être incroyablement difficile quand même. Et s'il arrive à basculer sur de la performance directe, franchement, là, on est sur l'un des meilleurs de tous les temps.
Bah, de toute façon, quoi qu'il se passe, il est quand même un des meilleurs de tous les temps.
Ouais, mais. Je vois, il touche. Je trouve que là, tu dépasses le quelque chose. Le GOAT, c'est vraiment.
Tu vois bien la mise en scène qu'il y a autour de son arrivée, le costume, parler en italien et tout. On voit bien que c'est. Quand on arrive chez Ferrari, on n'arrive pas chez McLaren, on n'arrive pas chez Alpine. Voilà.
Les copains, on reparlera de Lewis Hamilton, de Ferrari. Le début de la saison, c'est dans un mois, un peu moins d'un mois, c'est le 16 mars prochain avec le Grand Prix d'Australie. Il nous reste une minute, je voudrais juste profiter. C'est un petit cadeau au nouveau venu. Il nous a proposé un débat qui était passionnant sur Clarisse Agbenienou. Je voulais juste savoir les tenants, les aboutissants de cette affaire parce qu'elle a refusé et elle refuse de participer aux Mondiaux, mais elle discute en ce moment avec la Fédération. Je voudrais juste que tu nous dises un mot sur cette histoire un peu particulière.
Bah, l'histoire qui est particulière, qui est cachée entre guillemets derrière Clarisse, c'est la gestion des monstres sacrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu un événement hors du commun qui sont les Jeux Olympiques de Paris et on a des athlètes hors du commun, Teddy Riner, Clarisse Agbenienou, qui se connaissent par cœur, qui sont forcément aiguisés sur leur propre chemin, leur propre perspective et leur propre performance. Et puis, tu as un système à faire avancer. Tu as la manager, tu as l'entraîneur qui forcément ont une vision plus collective et qui doivent faire avancer aussi des jeunes et sélectionner des jeunes pour un championnat d'Europe qui, aujourd'hui, n'était pas prévu dans la continuité pour Clarisse qui, elle, voulait faire ce championnat d'Europe. Donc, si tu veux, le sujet, il était autour de cette dualité et la grande difficulté de gérer des athlètes et surtout de gérer des stars qui se connaissent par cœur. Et c'est vrai que c'est un sujet très complexe et aujourd'hui, Clarisse se connaît très bien, elle a des envies, le système doit fonctionner avec plusieurs athlètes et donc on est en friction permanente.
Est-ce que ça finit pas par agacer le reste de l'équipe de France, les desiderata, les caprices, disent certains, de la grande championne qu'est Clarisse?
Je pense que ce qu'il ne faudrait pas avoir, c'est cette modalité que tout caprice, alors c'est le mot, moi je connais bien Clarisse, donc je sais que c'est vraiment une volonté qui est basée sur quelque chose de réfléchi, mais en tout cas de vouloir tout le temps quelque chose pour soi, il faut vraiment atteindre le très très haut niveau et un profil de champion hors du commun. Clarisse est 6 fois championne du monde, Clarisse est 5 fois championne d'Europe, elle est multimédaille olympique avec
décider.
Elle est hors du commun. D'accord. Donc d'avoir un besoin hors du commun et une volonté, c'est intelligible et c'est compréhensible. En revanche, tout le monde n'est pas 6 fois champion du monde.
Ok, ça se passera en juin prochain pour ces Mondiaux. Clarisse Agbenienou ne devrait pas y participer, mais c'était important de t'entendre sur ce sujet, mon cher Fred. 10h56, on se retrouve dans quelques instants. Victor Wembanyama, on ouvre le dossier, on sera avec Fred Weiss. Est-ce que sa blessure gâche sa saison? On vous expliquera tout. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.